SILAB, en partenariat avec les presses universitaires de Rennes, présente l'émission Pureté. Chercheurs, universitaires et étudiants se rencontrent autour d'un ouvrage et dans toutes les disciplines.
Philippe Hamon, l'heure des peintres, l'image de l'argent du 15e au 17e siècle. Le changeur et sa femme de Quentin Métis, la vocation de Saint Mathieu du Caravage, le tricheur à l'as de carreau de Georges de la Tour, trois peintures célèbres qui font place à l'argent parmi des centaines d'autres souvent moins connues. Une question traverse ses œuvres et les sociétés qui les produisent. Comment vivre avec l'argent? Le livre fait place à un héritage très négatif qui fonde une relation toujours problématique. Mais il montre aussi comment l'iconographie ouvre des pistes pour une progressive acclimatation de la monnaie, suivant des voies parfois surprenantes. Philippe Hamon, professeur d'histoire moderne à l'Université Rennes 2, est ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud et agrégé d'histoire. Il est membre du Centre de recherche historique de l'Ouest. Le présent ouvrage est issu de son mémoire d'habilitation à diriger des recherches. Philippe Hamon, l'heure des peintres, l'image de l'argent du 15e au 17e siècle.
Très bien, eh bien donc... On va donc parler donc des images et de l'historien, et on revient donc sur, surtout sur un livre que tu as écrit qui est tourné autour d'un type d'image, celui des peintures, ça s'appelle L'or des peintres, et c'est donc un livre qui est paru en 2010, dans lequel tu ouvres un champ de réflexion nouveau par rapport à ce que tu avais fait auparavant, en changeant complètement de type de source. Puisque auparavant, tu as énormément travaillé surtout sur la finance, les textes, les archives. Et là, on passe dans un domaine totalement différent. Alors, du coup, la première question, évidemment, qui s'impose, c'est pourquoi ce changement et pourquoi travailler avec des images ?
Pour plusieurs raisons. La première, c'est, et ça fait le lien d'une certaine façon avec mes travaux d'avant, mes travaux sur les finances. Quand j'ai cherché pour la publication de mes ouvrages sur les finances des images d'illustration, de couverture, je suis allé voir du côté de ce qu'avaient fait les autres et je me suis aperçu que, y compris pour d'excellents ouvrages d'histoire, on a tendance finalement à prendre l'image simplement pour une illustration de couverture, et souvent pour une illustration de couverture qui n'a qu'un lointain rapport avec le sujet lui-même. Ça fait joli, ça présente bien, ça peut faire vendre. Et donc, mon premier contact, d'une certaine façon, avec l'argent, l'image, et l'image en général, chez l'historien, c'était ce côté décalé, problématique, hein, alors moi, j'ai essayé évidemment de faire sérieusement le travail et de prendre des images qui avaient rapport avec le sujet et qui étaient directement dans la chronologie concernée. Et c'était un peu, c'est peut-être un peu un clin d'œil, c'est peut-être anecdotique, mais il faut que vous sachiez que les sujets de recherche, parfois, on les trouve pas forcément au fruit d'une longue et élaborée réflexion, mais par le hasard des itinéraires biographiques et des occasions auxquelles on est confronté. À partir de là... dans le projet de réflexion sur les, enfin de travail en historien sur les images que j'ai fait, il était lié à un exercice académique qui s'appelle l'habilitation à diriger les recherches. Et c'est ce qui est utile ou nécessaire pour éventuellement devenir professeur d'université après. Et on nous demandait à l'époque, on insistait beaucoup à l'époque sur le fait que ça ne devait pas être une deuxième thèse et que ça devait être quelque chose d'assez éloigné de ce qu'on avait fait précédemment. Alors moi, ayant beaucoup travaillé sur des archives manuscrites textuelles, je me suis dit, je vais me lancer sur des images dans un genre historique, dans une approche historique complètement différente. Je vais me lancer sur un corpus d'images et je vais garder... alors. Ce qui apparemment faisait un lien un petit peu avec ce qui précédait avant, c'était cette question d'argent. Dans les faits, il n'y a pratiquement aucun rapport, même dans la bibliographie, entre le sujet des finances du XVIe siècle en France et puis le traitement de l'argent dans l'image. Mais malgré tout, il y a cette petite filiation, dont la médiation très concrète, je vous dis, c'est les images avec argent que j'avais regardées pour mes couvertures. Alors, c'est un travail aussi qui offrait l'intérêt, toujours cette habilitation. On vous disait aussi à l'époque, peut-être moins, enfin, ça reste vrai aujourd'hui, bon, c'est pas une thèse, donc prenez l'exercice d'une autre façon, traitez-le de façon moins académique. Donc je me suis dit, bah, là, je peux y aller, hein, 2 siècles et demi, toute l'Europe occidentale, c'est une autre démarche. C'est donc une autre démarche, mais je veux pas faire un simple essai, enfin, ou plus précisément, si je veux faire un essai, je veux le faire avec un corpus de textes bien précis, bien délimité. Et donc, j'ai creusé un peu diverses pistes pour atteindre un corpus d'à peu près 1350 peintures sur lesquelles il y avait de l'argent, plus des corpus annexes dont on parlera éventuellement tout à l'heure, avec un projet d'historien. C'est-à-dire que l'objectif, c'était voir si à partir de ce corpus d'images, on pouvait dire quelque chose d'intéressant sur le rapport des sociétés concernées à l'argent, des sociétés d'Europe occidentale, ce qui est un terme évidemment anachronique, hein, enfin, disons essentiellement, si vous voulez, les deux grands foyers de production d'images, c'était l'Italie et les Pays-Bas au sens large, deux foyers annexes qui étaient le monde germanique et puis la France, et puis quelques émissaires un petit peu en Espagne, en Angleterre, mais bon, c'est ça, mon Europe occidentale, si j'ose dire. Et donc je me suis lancé là-dedans, avec une certaine naïveté. Je me souviens encore d'un de mes collègues, quand je lui ai dit, après la thèse, il me dit, tu fais quoi maintenant ? Je dis, je travaille sur ce que je viens de vous dire. Et j'entends encore sa formule, il me regarde, puis il me dit, mais c'est pas un peu casse-gueule, ce truc-là ? Je dis, on va voir. Hein, donc, et d'une certaine façon, ça l'était. D'une certaine façon, ça l'était, parce que c'est plus difficile de faire admettre ça, finalement, dans la communauté historique, que d'autres types de travaux, on y reviendra peut-être. Pas simplement parce que c'est des images, mais aussi, peut-être en partie, parce que le projet, au départ, était de ne choisir comme corpus documentaire que les images. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu des textes, on en parlera peut-être, mais que vraiment, le corpus de source était exclusivement composé d'images. Donc voilà un peu comment ça s'est, comment l'histoire a commencé, si j'ose dire. Et là, si on veut faire un peu de chronologie, on est dans les années 1998-2000.
Et donc, à un moment où, par ailleurs, les images sont assez peu représentées, autrement que par l'illustration, dans le domaine historique, notamment francophone, où on commence réellement un processus, je dirais, dans lequel l'image commence à être intégrée comme élément pur d'analyse. Donc, ton travail s'inscrit là-dedans. Mais par rapport, justement, à ces textes auxquels tu étais habitué, avec lesquels tu étais habitué de travailler, est-ce que tu vois un apport spécifique que l'image apporte qu'on ne peut pas trouver dans les textes ? C'est-à-dire, quelle est la valeur ajoutée, en fin de compte, de regarder les images plutôt que les archives ou le texte ?
Oui, pour, du point de vue de l'historien, puisque c'est ça, moi, mon choix et ma démarche, c'était la question fondamentale. Est-ce qu'on pouvait, à partir des images, faire apparaître des choses qui ne soient pas qu'une simple mise en illustration ou mise en complément de textes existants déjà. Alors, c'était là le pari. Je peux vous faire un grand discours théorique là-dessus, mais je vais essayer de vous montrer peut-être des images pour que vous voyez un peu ce que ça peut vouloir dire concrètement. L'idée générale, c'était que l'image moderne, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, surtout que certains l'ont déjà subi, est portée par un rapport au monde qui passe beaucoup par un effet de réel, et donc un effet qui donne à représenter le monde, la société, dans le cas d'une figure figurative qui prend des formes religieuses, nature morte, peinture de genre, etc. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle donne à voir non pas des concepts, mais des relations entre des êtres représentés sous forme picturale, vous en avez là au-dessus, je vais revenir sur eux tout de suite, et elle donne à voir, non pas des fonctions, mais des fonctionnements. Donc elle permet d'une certaine façon une approche anthropologique plus aisée, d'une certaine façon, que ne l'est celle des textes, et surtout, et ça c'est pour ça que j'ai choisi ce premier exemple là, que vous avez devant vous à l'écran, elle est obligée dans un certain nombre de cas de remplir les trous, si j'ose dire, que les textes vous donnent. Si vous lisez le récit de l'adoration des mages dans les évangiles tant officiels qu'apocryphes, il n'y a pas grand-chose. Les mages arrivent, ils ouvrent leur carton, ils donnent leurs affaires, et puis basta. Or, quand il s'agit de le mettre en image, là, il y a plein de problèmes qu'il faut qu'on résolve. Comment on les représente, comment ils sont disposés, qu'est-ce qu'ils donnent finalement, qu'est-ce que c'est. Et donc, l'image est obligée de répondre à ces questions. Et évidemment, les réponses qu'elle apporte sont des choses que les textes ne nous donnent pas. Et ici, par exemple, si vous regardez cette image, alors, moi, je me suis concentré sur la question du rapport à l'argent. Il y a plein d'autres choses à dire sur ce tableau. C'est un des premiers exemples d'acclimatation, par exemple, du troisième âge en noir. Le noir, c'est une introduction du cours du XVe siècle. On est tout au début du XVIe. Et ce qui m'avait intéressé là-dessus, c'est que voilà un petit Jésus, bon, qui n'est évidemment pas un nourrisson de quelques jours, sans quoi il n'aurait pas le comportement qu'il a, et qui prend en main l'argent, qui le présente comme ça au-dessus d'une coupe. Donc premièrement, il y a une sorte d'apprivoisement physique de l'objet. Et puis par ailleurs, là aussi on pourrait s'étendre, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, ce petit rond circulaire frappé d'une croix au-dessus d'une coupe rappelle étrangement quelque chose qui est aussi un objet fondamental des sociétés du temps, qui est l'Eucharistie. Et donc il y a des apparentements visuels qui nous ouvrent à une réflexion, d'une certaine manière, sur ce que peut représenter cette image et ce qu'elle peut apporter par rapport au thème. Deuxième exemple, enfin, deuxième dimension peut-être par rapport à une image comme ça, voilà une famille pauvre qui reçoit des cadeaux d'une valeur inestimable, qui ont techniquement, si on les estimait dans les sociétés du temps, la possibilité de faire vivre une famille charpentière raisonnable pendant 10 ou 20 ou 50 ans. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà ce que les gens voient, mais après, ils sont tout aussi pauvres, il n'y a aucun problème. Ils reçoivent des objets, de l'argent et des objets de luxe, là je peux étendre ma réflexion, fabuleux, comme en ont à peine le duc de Bourgogne et le roi de France. Et donc c'est ça qu'ils reçoivent, et c'est ça qu'on voit qu'ils reçoivent. Et puis après, ben, ils sont pauvres. Ils sont pauvres comme s'il y avait une espèce d'inadéquation entre le don qui est fait et l'évolution sociale ensuite. En fait, comme si dans cette circonstance-là, d'une certaine manière, l'argent n'a pas de valeur. La monnaie et les métaux précieux, finalement, n'avaient pas de valeur. Comme si, pour continuer un peu la réflexion, la puissance du Christ et de la Sainte Famille était tellement forte qu'ils arrivaient à neutraliser ce qui est une des dimensions qui m'est apparue fascinante en image, qui est celle de la puissance exceptionnelle de l'objet argent pour complètement perturber les contextes, les images dans lesquelles il se situe. Je vais vous donner juste un exemple, c'est celui-ci, ce qui me paraît tout à fait parlant. C'est une représentation du mythe de Danaé. Danaé, mise de côté, mise à l'abri par son grand-père parce qu'un oracle avait dit que Danaé aurait un fils qui tuerait le grand-père, donc le grand-père a voulu la mettre un peu à l'écart par précaution. Et cette Danaé, elle est fécondée par une pluie d'or qui représente Jupiter. Jupiter la féconde sous la forme d'une pluie d'or. Jusqu'au milieu du XVIe siècle, la pluie d'or, c'est des rayons lumineux, des poussières d'or, etc. Puis à partir du milieu du XVIe siècle, c'est de l'argent. Et à partir du moment, des pièces de monnaie, comme vous les voyez, à peu près, je pense en haut à gauche, là, même si la luminosité n'est pas extraordinaire. Bref. À partir du moment où c'est des pièces de monnaie, alors, ça perturbe complètement l'image. Ça perturbe complètement l'image parce que les personnages, dès qu'il y a de la monnaie, commencent à se jeter dessus, ils ne sont pas assez puissants pour résister à sa force. Ils commencent à se jeter dessus, que ce soit Héros, que ce soit les suivantes, que ce soit les poutis qui traînent par là, les petits angelots. Et on finit par arriver à cette situation assez extraordinaire, que voilà Danaé est fécondée par la pluie d'or, sauf que si vous regardez bien le tableau, l'or, il tombe partout, sauf sur Danaé. Il tombe dans le giron de la vieille femme, parce que, en fait, la présence de l'argent fait que le thème qui ressort dès qu'on a des gens ordinaires en image, c'est l'avidité, le besoin de l'acquérir, le besoin de l'avoir, et que Danaé, sur cette image-là, finalement, elle est mise à part. Elle est une femme honnête qui est fécondée par un dieu, et finalement, elle est mise à part de la monnaie elle-même. Donc voilà, si vous voulez, dans des dimensions extrêmement variées, des effets que provoque la présence de l'argent, et donc des choses qu'on ne voit pas forcément, lit pas forcément, si j'ose dire, dans les textes, et ici qui sont représentés en images. Alors il y a plein d'autres pistes, mais tu as peut-être d'autres questions, on y reviendra éventuellement sur d'autres aspects.
Si tu veux, c'est assez intéressant en fin de compte d'entendre ton analyse, puisque on y voit réellement l'élément central qui guide ta pensée. Tu ne fais pas une vision d'ensemble de l'image, mais réellement c'est un aspect, un angle, on pourrait dire un détail qui te guide. Et tu cites d'ailleurs dans une citation de Peter Burke, que le bon Dieu est dans le détail, ce qui est drôle parce qu'en fait, il reprend une citation qu'on retrouve chez Flaubert, chez Nietzsche, hein, cette idée donc du diable dans les détails ou du Dieu dans les détails. Et en fait, cette concentration sur les détails, ça t'a jamais gêné par rapport au reste, parce qu'en fait, fin de compte, tu es obligé de faire ce travail de contextualisation aussi continu. Est-ce que ça a été l'occasion que, par exemple, on te reproche d'avoir eu ce regard de détail précisément?
Alors, c'était une vraie contrainte, parce que, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire représenter l'argent dans la peinture. Ça pourrait être plein de choses. Tout l'argent étant une sorte d'équivalent, enfin la monnaie étant un équivalent universel, à la limite, tout est monnaie potentiellement. Vous représentez un sac de pommes de terre, potentiellement, c'est la valeur argent que l'on peut en tirer. Donc, j'ai fait le choix, que je peux expliciter plus longuement si nécessaire, de considérer que quand l'image voulait attirer l'attention sur le détail, enfin la question monétaire, eh bien, elle représentait une pièce de monnaie. Et dans le cas d'Anaï, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a des possibilités de le faire sans et il y a des possibilités de le faire avec. Ce qui veut donc dire qu'on a le choix, et ce qui veut donc dire, je le prétends, que si on fait ce choix, c'est qu'il a des raisons. Alors, pas forcément que les gens soient conscients de l'ensemble des raisons qui leur font faire ça, mais qu'il y a des raisons. Et donc, pour moi, effectivement, c'était intéressant d'aborder cette image, ces images, sous l'angle d'un détail. Alors, le problème que tu évoques, c'est quand, effectivement, on en retient 1350, il est impossible de se plonger dans la bibliographie intégrale des tombereaux d'analyse que historiens, plus encore historiens d'art, éventuellement d'autres spécialités, des littéraires, aux psychologues, ont pu dire autour de ces images, et que là, on entre dans cette catégorie de fragilisation, si j'ose dire, de la démarche, qui est le fait de dire ben, « on ne maîtrise pas tout ». Donc là, il y a deux attitudes, globalement. Soit vous dites « je ne maîtrise pas tout, donc je n'écris rien », soit vous dites « je ne maîtrise pas tout, mais j'écris quand même », au motif que ça fera avancer les choses, au risque d'être éventuellement démenti. Démenti soit sur des hypothèses segmentaires, comme celles que j'ai évoquées ici, par exemple, pour le thème de Danaé, soit sur les hypothèses globales, un peu, que l'ouvrage prétendait évoquer. Mais ça, et je pense qu'il y a des jeunes chercheurs dans la salle, la prudence absolue est un problème heuristique fondamental. Mais si vous attendez d'être sûr de votre fait, vous n'écrivez jamais. Parce qu'on n'est jamais, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas dans une bibliothèque en Mongolie extérieure le manuscrit qui mettra à mal, peut-être pas tout, mais partie de notre définition, ou dans les réserves d'un musée de Santiago du Chili, l'image qui ne correspond pas. Alors moi, j'ai eu une démarche très, très empirique par rapport à ça. J'ai regardé des images. J'en ai regardé des quantités industrielles, à tel point, d'ailleurs, que c'est très drôle, parce que dans un compte-rendu qui a été fait du bouquin, on m'a dit, mais c'est pas possible qu'il en ait vu autant. Bon, alors, le calcul est facile à faire, 1350 images. J'ai fait des pourcentages sur des corpus limités pour savoir, sur 100 images, combien il y en avait qui représentaient de l'argent. Bon, je vous passe les détails, on arrive à 2-3%. Faites le calcul, pour avoir 2-3% arriver à 1350, il faut en avoir vu 50 000 à peu près. Donc, et en plus, comme certaines, je les ai vues plusieurs fois, si j'ose dire, j'en ai peut-être vu même plus de 50 000, si j'ose dire. Et ça paraissait improbable. Je pense que ce n'est pas plus improbable que de voir 50 000 pages de manuscrits quand on dépouille des archives. Mais là, la question, si j'ose dire, est peut-être posée différemment.
En revenant d'ailleurs là-dessus, du coup, on peut réfléchir au moment où tu as écrit ce livre et surtout où tu as fait la recherche. Tu évoques donc d'avoir commencé en 98-99 le livre paraît en 2010, donc on a une bonne décennie de travail, 10 ans de recherche, 10 ans de recherche que tu as accompli, donc dans une période où les ressources du web, de l'Internet, n'offraient pas du tout ce genre de corpus. Donc, je présume que tu as dû te déplacer toi-même pour aller les voir. Ou est-ce que tu as su servir surtout de livres? Est-ce que ça a été l'occasion de découvrir l'Europe et le monde? Enfin, je ne sais pas.
Alors, deux choses. D'abord, sur la chronologie. Le livre est paru en 2010 parce que j'ai traîné à le publier, à le réécrire, enfin, le retravailler pour le publier. Mais en fait, le travail a été soutenu en 2003. Et même s'il a été réaménagé après, le gros du travail de recherche, l'essentiel du travail de recherche a été fait avant 2003. Alors depuis, quand je trouve des tableaux avec argent, même encore aujourd'hui, ça me démange, donc je les note. Mais disons que l'essentiel du travail était fait entre 1998-99 et 2003. Donc à une époque, effectivement, où on n'allait pas naviguer sur la toile comme aujourd'hui. Et l'essentiel de la recherche a été faite sur du papier. Car si j'ai, évidemment, à chaque fois que je visitais des musées où je pouvais, en France et à l'étranger, en Italie, un peu aux Pays-Bas, aux Pays-Bas actuels, j'allais dire Provinces-Unies, mais ça c'est un réflexe de moderniste, aux Pays-Bas, en Amérique du Nord un peu, j'en ai vu quelques-uns en vrai, mais j'en ai pas vu 5% en vrai. Ce qui est un problème, car tous les spécialistes de l'image vous le diront, voilà encore un autre, une autre limite du travail, tous les spécialistes de l'image vous le diront, rien ne remplace le contact direct. Avec une gravure, c'est déjà important, avec un tableau, c'est encore plus important. Et là encore, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, soit on envisage de faire, et puis je vous assure qu'il y a beaucoup, je ne parle même pas des tableaux qui sont, dont on ne sait même plus trop où ils sont, ceux qui sont inconnus, ceux qui sont dans les collections privées, mais même si on va faire le tour des collections publiques, ça veut dire faire le tour de toute l'Amérique du Nord, de toute l'Europe et un peu de l'Asie orientale, ça fait beaucoup. Donc là encore, c'est un travail pour lequel il faut accepter d'une certaine manière ses biais et ses limites, avec un problème accentué pour moi, c'est que travaillant sur un détail, bah, quand je n'avais pas une bonne photo, il y a des problématiques que je pouvais mal résoudre sur l'image elle-même. Les choses sont... Je pense que la capacité visuelle de faire ce travail a été multipliée par 10 ou 100, enfin ça ne veut même rien dire, si on essaie de le faire à partir de 2018 aujourd'hui. La disponibilité Internet ne résout pas tout, mais la résolution justement des images, elle est incontestablement meilleure, au moins pour une bonne partie du corpus. Oui, c'était un problème, mais là je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître et pour lequel là, il y a effectivement eu des mutations, des révolutions. Aujourd'hui, effectivement, je trouve une nouvelle image sur Internet, je zoome, je me déplace, je la regarde, je la grandis, je la télécharge, j'en fais ce que je veux, en gros. Enfin, ce que je veux, pas tout à fait, mais enfin, disons, c'est beaucoup plus souple que ce que ça n'était à l'époque. Mais là encore, si on attend les outils parfaits pour travailler, enfin, ou les outils idéaux pour travailler, on ne travaille pas. Donc, mais clairement, c'est un autre temps. Je faisais des photocopies, enfin, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est la préhistoire. Enfin, c'est le millénaire précédent, mais là, vraiment au sens premier.
Tu nous parles donc de la façon, tu nous as parlé de ces deux exemples que tu nous as montrés de l'argent en tant que concept, en tant qu'élément. Est-ce que tu as eu justement ce regard de détail aussi vers les pièces utilisées? Est-ce que tu es allé dans l'essai de, par exemple, on sait dans certains tableaux comme de Quentin Metsys, on arrive à voir quelles sont les pièces en question. Est-ce que ça fait partie de ton analyse ou c'est quelque chose auquel tu as dû renoncer, justement?
Non, je l'ai fait. J'ai évoqué ce thème-là aussi. La proportion des tableaux sur lesquels on peut effectivement envisager de reconnaître les pièces est très faible. Tout cas, il y en a moins de 5%, j'en suis à peu près persuadé. Là, j'ai travaillé avec le boulot qui avait été fait par les autres, parce que c'est un travail collectif. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé pour ça toute la masse de données factuelles et d'analyses qui avaient été faites par des générations d'historiens d'art, surtout, un peu d'historiens quand même, mais aussi d'historiens d'art. Et il y avait des analyses qui étaient faites sur la représentation, enfin l'identification des images sur tel tableau de Marinus van Riemersveld ou sur Le Changeur et sa femme de Quentin Metsys, etc. Donc, et puis j'ai un copain collègue qui est maintenant prof à Brest, Yves Coativi, qui était numismate. Donc dans certains cas, je dis, pourquoi pas me donner un petit coup de main. Donc j'ai fait ça. Finalement, c'est intéressant pour l'effet de réel. On s'aperçoit que très souvent, précisément, c'est une dimension de plus de ce biais de la représentation par rapport à la réalité. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on représente, c'est des monnaies qui sont symboliques d'une époque, qui sont des monnaies passées, qui sont des monnaies exceptionnelles quand on peut les identifier, et très très peu, en fait, finalement, ce qui était le quotidien des espèces monétaires qui pouvaient être dans la bourse de telle ou telle matrone des Pays-Bas ou de tel ou tel noble d'Italie. Donc là, il y a aussi un décalage, mais qui est général. Les images, elles sont... Je parle d'effets de réel, parce que ça se voit, c'est des corps, et donc pour l'anthropologie, c'est intéressant. Mais les images, elles sont fondamentalement normatives. Ce qu'elles cherchent à nous faire passer, c'est un message. Quand vous voyez ça, Saint-Laurent distribue le trésor de l'Église. Bon, là, c'est une époque de persécution de l'Église, donc plutôt qu'il passe dans les mains de l'empereur païen, on va le donner aux pauvres. Fra Angelico représente ça, on est au milieu du XVe siècle à Rome, c'est une fresque. Et c'est un saint qui donne de l'argent. Donc, de toute façon, il ne peut donner de l'argent qu'aux personnes qui sont légitimes pour le recevoir. Donc, ça ne nous représente pas une opération charitable au milieu du XVe siècle. Ça nous représente qu'est-ce que c'est que la norme charitable au milieu du XVe siècle. On donne de l'argent à qui? Aux personnes en situation de handicap, aux enfants, aux veuves, aux familles nombreuses. Et quand il y a un adulte, eh ben, il est planqué derrière. Et, parce que celui-là, vous me dire, c'est un adulte. Oui, mais il est aveugle. Là, vous avez des handicapés, vous avez tout ce qu'il vous faut, des femmes avec enfants en bas âge, bref. Et on inscrit une norme dans l'image. Ce n'est pas représentation d'une opération charitable au milieu du 15e ou même au milieu du 3e siècle, peu importe. S'il y a véritablement un propos normatif à chaque fois. Même quand c'est normatif, même quand imposer une norme, ça ne s'impose pas forcément par la violence. Ça peut s'imposer effectivement par la représentation de l'ordre. Je peux vous donner un autre exemple, ça va peut-être le dernier d'une certaine façon, c'est le quatrième que j'ai prévu. Parce que ça, c'était aussi une découverte de la spécificité de l'image. Voilà un tableau d'un peintre, j'ai oublié de mettre le nom, qui s'appelle Jan Gossart, qui est un peintre hennuyé, un peintre du Hainaut, qui représente un homme d'argent dont on ne sait pas bien finalement qui il est exactement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que sur la table devant lui, à côté des objets de son activité professionnelle, qui est une activité de financier ou de grand marchand, il a des pièces de monnaie en bas, au centre de l'image, qui sont représentées, une petite pile de pièces d'or. Bon, quoi de plus banal qu'avoir un grand marchand ou un financier avec des pièces d'or? Et quand j'ai commencé à collecter les tableaux et mis tout ça dans mon petit dossier portrait avec argent, je les ai accumulés sans plus y réfléchir. Puis tout d'un coup, je me suis aperçu comme de quelque chose de très étonnant. C'est que ce genre pictural disparaît, mais totalement, au milieu du XVIe siècle. C'est-à-dire, il apparaît à une date alors très précise. Il apparaît entre 1510 et 1515. On voit apparaître cette tentative de représentation en parallèle avec le tableau que vous connaissez peut-être de Changeur et sa femme de Médicis, mais qui n'est pas un portrait. C'est un tableau de genre, c'est autre chose. Et pendant une génération, cette image va exister, essentiellement France, Pays-Bas, monde germanique, et en l'espace de 10 ans, elle disparaît. Alors on peut se dire, bon, bah voilà, on va pas y passer la soirée, on prend du café. Moi, ça m'interroge quand même. Et j'interprète finalement cette chose qui n'a pas son équivalent aussi radical dans les textes, ou du moins de ce que j'en connais, comme une tentative d'imposition en image du fait que il est légitime de s'enrichir par l'argent. Il est légitime de se faire représenter comme s'enrichissant avec de l'argent, et la meilleure preuve, c'est qu'on le met à côté de soi. C'est pas il y a le travail, bien sûr, mais c'est le travail qui permet l'enrichissement par l'argent. Eh bien, on a le sentiment qu'au milieu du XVIe siècle, finalement, eh ben, c'est impossible. C'est impossible de tenir, finalement, sur cette position idéologique. C'est impossible de continuer à imposer ça. Pourquoi ? Parce que c'est trop risqué d'avoir de l'argent à côté de soi. C'est trop risqué dans la représentation. Vous avez vu cet argent, il a une telle puissance tout à l'heure qu'il est capable même de déformer les mythes. Eh bien, quand il est en image et qu'on est représenté avec de l'argent, on finit toujours par être associé à l'avare, à la figure de l'avare. Donc, on l'évacue et on le fait disparaître du tableau. Alors, personne n'a fait, je pense, dans sa petite tête, le raisonnement que je viens de faire devant vous. Ça, c'est l'historien qui le fait. Mais je constate objectivement que ce sous-genre de la peinture de portrait naît, vit et meurt en l'espace de 40 ans. Et voilà, me semble-t-il, une bonne illustration, d'une part, de la dimension normative de l'image, qui essaie de faire passer le message qu'on peut être comme ça, et ça correspond à une époque l'époque de la Renaissance, qui est une époque où qui pratique, alors là, sur le plan textuel et dans la gravure et ailleurs, l'exaltation du marchand. Mais là, on voudrait la pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'exaltation du marchand, finalement, ça serait l'exaltation du marchand comme celui qui accumule très concrètement l'argent et qui en fait un élément de sa représentation sociale personnelle. Eh bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc ça s'arrête. Ou ça s'arrête, donc ça ne marche pas. Après, on pourra discuter dans quel sens se font les choses. Et ça, c'est... J'avoue que j'avais un peu travaillé sur l'argent à l'époque de la Renaissance avant. C'est quelque chose que l'image offre et que n'offre pas d'autres types d'approches.
Ces conclusions que tu mets en avant sont très fortes. Elles touchent également le domaine de l'histoire de l'art, et pas que le domaine de l'historien dans sa portée. Du coup, les recensions, la réception, les critiques ont été parfois un peu amères ou tout s'est bien passé ?
Ça n'a pas fait l'objet d'un écho terrifiant, on va dire. Et ça posait visiblement, ça posait des problèmes. Ça posait des problèmes aux historiens qui n'osaient pas trop s'y lancer. Et quand ils s'y lançaient, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, je trouvais qu'ils ne s'y lançaient pas avec beaucoup de conviction. Il y a celui qui disait, non, avoir vu 40 000, 50 000, ce n'est pas possible. Celle qui, à l'inverse, croyait qu'il y avait 40 000 à 50 000 images avec de l'argent. Donc, ce qui veut dire qu'elle avait vite lu quand même le travail. Bref, peu importe. Le vrai enjeu, c'était quand même avec les historiens d'art. Et... de façon significative, dans une revue que je connais bien, ils n'arrivaient pas à trouver un historien qui veuille se coltiner, d'une certaine façon, avec cet objet un petit peu, peut-être un peu décalé, d'une certaine manière. Et ils ont fait faire la recension par une historienne d'art. Et moi, j'ai été fasciné, parce que non, l'historienne d'art, le contrat, c'était... Bon, c'est une fille, en plus, par ailleurs, je sais par où elle est passée, qui avait une formation d'historienne. Et le contrat, c'était pour une revue d'histoire. Et c'est assez fascinant, son compte-rendu ne porte que sur la légitimité de la démarche qui est suivie. C'est-à-dire, en clair, si vous avez vu passer le bouquin ou si vous le voyez, il y a 5 parties. Il y a une première partie sur la méthode, la démarche qui est suivie, puis après, on travaille sur le thème quand même un petit peu. Et finalement, c'est un compte-rendu qui était très long et par ailleurs fort intéressant, mais qui ne parlait que de la première partie sur les 5. Ce qui est un peu frustrant pour l'auteur quand même, si vous voulez, parce qu'elle considérait qu'elle n'était pas légitime à parler de la dimension historique, ce que je veux bien admettre, mais tant qu'à faire un compte-rendu, quand même, autant aussi essayer de s'y coltiner. Et l'argument, c'était de dire, mais... je le comprends. Moi, j'ai clairement voulu suivre une autre démarche que celle des historiens d'art par rapport aux images. Même si je me suis considérablement appuyé sur leur expertise, parce qu'elle m'était indispensable dans plein de domaines, c'est un livre qui n'est pas un livre d'histoire de l'art. Qui par certains côtés, prend le contre-pied, d'une certaine manière, de certaines démarches de l'histoire de l'art. Et ça crée effectivement une situation de tension, mais une tension au bon sens du terme, je veux dire de tension intellectuelle entre certains types d'approches et d'autres types d'approches. Et je suis un petit peu frustré de ne pas avoir mené plus avant, d'une certaine façon, la confrontation. Mais... je ne leur ai peut-être pas donné moi-même les moyens de la confrontation, en ce sens que, dès le début, en gros, si vous lisez l'introduction, je dis, ici, on ne fait pas de l'histoire de l'art, on l'utilise, je vais ouvrir les guillemets, s'il y a des historiens d'art dans la salle, ils me parleront la formule, histoire de l'art ici, c'est science auxiliaire de l'histoire, c'est comme ça que je l'utilise, de même que l'historien d'art peut faire la même chose dans l'autre sens, et bon, c'était peut-être pas une confrontation sur un pied d'égalité tel qu'ils pouvaient le recevoir de façon satisfaisante. Et donc, je veux dire par là qu'il y a aussi sans doute une part de ma responsabilité dans la difficulté à recevoir les choses. Mais c'est dans la mesure où ça ne portait sur le corpus documentaire n'est qu'un corpus d'images, c'était un petit peu original. C'est ce qui m'intéressait. Ça ne fait pas de ce livre le meilleur livre des 30 dernières années, c'est l'avant moins bon, mais c'était vraiment l'originalité de la démarche qui m'intéressait.
Je voudrais finir peut-être juste sur une question sur le choix fondamental de tes images, c'est-à-dire qu'en fait tu n'as pas choisi des images, tu as choisi des peintures, et précisément donc c'est un genre particulier dans l'ensemble, et je vois que tu as inclus autant des peintures fresques que des peintures tableaux, et je me demandais quel était en fait ce qui t'a guidé intellectuellement sur ce choix-là.
Oh, c'est pas intellectuel. Ce qui m'a guidé là-dessus, c'est la facilité. La facilité en ce sens que je faisais l'hypothèse et que j'ai globalement vérifié, c'était le support le plus accessible documentairement, rapporté à une masse qui ne soit pas absolument monstrueuse, comme pouvait l'être celle de la gravure en général, ou très compliquée à accéder, comme pouvait l'être la tapisserie, en plus qui était là, qui avait des biais encore supplémentaires, ou le vitrail, des choses comme ça. J'ai essayé d'utiliser, parfois quand j'en avais besoin, quelques tapisseries, quelques vitraux, des gravures, parce que y a une autre thèse à faire, d'autres livres à faire sur l'argent dans la gravure, même si j'ai essayé d'en mettre quelques pistes là-dedans. C'était à l'époque au moins, mais même encore aujourd'hui, je pense, beaucoup plus facile de trouver d'énormes quantités, d'énormes gisements documentaires de tableaux que de gravures. Dans des séries, alors évidemment, dans des livres, alors, bon, ça, c'est un autre monde, mais dans des livres qui étaient, ici vous avez par exemple la collection de Friedlander là, sur Early Netherlandish Paintings, qu'on a toutes là, qui doit être dans les réserves, si mes souvenirs sont bons, là il y en avait une quantité industrielle, en noir et blanc, évidemment ça posait d'autres problèmes, mais presque tout était en noir et blanc. Mais vraiment ça a été la facilité, et c'est en travaillant dessus que j'ai découvert effectivement que les logiques étaient différentes, parfois opposées, mais assez différentes des gravures, par exemple. Mais la gravure, là, j'aurais été, c'était intenable sur cet espace-là. Or, je voulais brasser large. Sur le plan spatial et chronologique. Donc là, déjà, la peinture, ça faisait beaucoup, enfin, c'était grand. Donc, et quand je dis 1350, ça veut dire que c'est beaucoup, certes, mais ça n'a aucune prétention à l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que j'envoie peut-être, je ne sais pas combien, parce que je ne peux pas le mesurer, mais enfin, il aurait fallu, là encore, il aurait fallu continuer jusqu'au jugement dernier, qui est souvent représenté d'ailleurs par une balance avec de l'argent, mais passons là-dessus, jusqu'au jugement dernier encore, pour prétendre à l'exhaustivité, mais ce n'est pas mon objectif. Je prétends qu'à un certain degré, une certaine quantité, si j'ose dire, on peut produire des hypothèses intéressantes.
Merci beaucoup.
Philippe Hamon, l'heure des peintres, l'image de l'argent du 15e au 17e siècle.
Pureté sur syllabe.